cours d'éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 17 octobre 89.
Je réponds tout de suite à cette question. La dernière fois, vous avez dit que l'éthique se fondait sur l'amour d'amitié. Ça n'a pas varié du reste. Ça reste. Ça tient la route. J'espère que pour vous aussi. L'expérience la plus fondamentale de notre vie. Or, dans la lettre à un ami, vous dites la première expérience, la plus proche de l'homme, celle à laquelle il revient toujours, est celle du travail. L'éthique philosophique ne doit-elle donc pas se fonder, partir de l'expérience du travail? Mais nous avons diverses expériences. Quand vous travaillez, c'est pas la même chose que quand vous aimez. À moins que pour vous, c'est la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Et je crois que pour tous les hommes, c'est pas la même chose. Quand vous avez affaire à un marxiste, vous en trouverez de bons socialistes marxistes. Ou des marxistes purs. Et qui vous dialoguez avec eux. Il faut dialoguer avec eux. Il ne faut pas les attaquer tout de suite. Ah, moi, je suis pas. Moi, je suis capitaliste, je ne suis pas marxiste. Dites surtout pas ça, n'est-ce pas? Essayez de. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est votre conception de l'homme. Elle commence à trembler un peu. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Qu'est-ce que c'est que pour vous l'amour? Est-ce que votre marxisme vous dit quelque chose sur l'amour? Alors il dit, oh non, rien du tout. Mais c'est quand même, ça fait partie de votre vie humaine, ça. Quel est le rapport entre votre amour et le travail? C'est deux expériences tout à fait différentes. Quand on a bien travaillé, bah, très bien, l'amour, c'est autre chose. Je dis pas que c'est une détente, pas du tout. Si vous prenez l'amour comme une détente, c'est plus l'amour, c'est Aphrodite, comme diraient les anciens. Pour beaucoup, c'est une détente, mais c'est pas vraiment l'amour. C'est un amour de jouissance qui est une détente. C'est second. Tandis que le véritable amour, c'est autre chose. On rencontre une personne. Et c'est deux choses totalement différentes dans ma vie. Donc, je peux très bien dire que l'amour d'amitié est fondamental pour ma vie humaine, d'homme, et que le travail est aussi quelque chose de très fondamental. Pourquoi pas deux fondements? J'ai une complexité en moi. Le travail est plus proche de mon corps. Si je travaille, c'est à cause de mon corps. C'est aussi à cause de mon intelligence qui résonne, mais c'est à cause de mon corps. Parce que ma connaissance passe. Et le travail, c'est ma situation dans l'univers. C'est sûr. Je suis capable de transformer l'univers. C'est quand même quelque chose. Quand je rencontre l'homme, est-ce que mon souci premier, c'est de le transformer? Je vous ai toujours raconté cette petite histoire avec les psychanalystes freudiens. On a amené nos amis, après la première discussion, le psychanalyste dit, oh, votre ami, là, un tel, oh là là, oh, un peu d'analyse, ça lui ferait du bien. Donc, il l'avait regardé pendant tout le temps qu'on était ensemble, sous le point de vue analytique. S'il permet de vous regarder sous le point de vue analytique, ah, les psychanalystes auraient du boulot. Parce que pour chacun d'entre nous, il y a petit quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est bien évident, mais ce n'est pas ça qu'on regarde en premier lieu. Est-ce que vous croyez que le regard de Dieu sur vous en premier lieu, c'est un regard psychanalytique? Non. C'est de regarder une personne. On reçoit une personne. C'est une personne qu'on aime. C'est un chrétien qu'on aime. Oui, il y a deux expériences tout à fait différentes. quand vous regardez du bois et que vous êtes charpentier ou ébéniste, vous dites « Oh, ce bois, merveilleux !» Mais vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas dire « Vous aimez ce bois, vous allez dormir avec. » Vous dormez dessus, oui, mais pas avec. C'est pas la même chose. Vous appuyez sur le bois, vous le travaillez, puis vous aimez. Quand on aime quelqu'un, on l'aime tel qu'il est. Et pas en premier lieu, on dit « Oh, ça c'est une matière merveilleuse à transformation. Oh là là, je vais le transformer en l'aimant. » Si vous avez ça comme premier but, vous êtes sûr hein, de la faillite. L'amour d'amitié n'ira pas très loin. Parce qu'au fond, vous n'aimez pas quelqu'un. Vous aimez quelqu'un tel qu'il est. Puis ensuite, vous essayez de comprendre ce que c'est que l'amour d'amitié. Ce que c'est que le véritable amour. Ce respect à l'égard de l'autre. Oui, c'est le respect à l'égard de l'autre qui est fondamental dans l'amitié. Dans un véritable amour. Et non pas la jouissance. Ah, ça me fait plaisir de te voir. C'est très bien. Mais c'est pas ça qui est premier. Ce qui est premier, c'est le respect vis-à-vis de l'autre. Et que l'autre puisse vraiment être parfaitement lui-même. Donc, il y a deux expériences fondamentales, je suis tout à fait d'accord. C'est les deux grandes expériences fondamentales. Vous avez dit, il peut y en avoir deux. Mais oui, puisqu'on est complexe. Il y en a même trois. La solidarité. Le travail en commun. Le travail en commun, c'est la solidarité. Et dans le travail en commun, il y en a toujours un qui est plus que l'autre. Et donc dans la solidarité, vous retrouvez l'obéissance. Bon, donc voyez bien, l'éthique philosophique ne doit-elle pas se fonder à partir de l'expérience du travail? Non. Ça, ce serait l'éthique nietzschéenne. Pour Nietzsche, la grande expérience, c'est la créativité. C'est pas le travail. C'est toute la différence entre Nietzsche et Marx. Il y a des parentés, mais il y a de grosses différences entre les deux. Nietzsche, c'est l'aristocrate. Créativité. Il ne se salit pas les doigts. Tandis que Marx est au contraire. Les travailleurs, c'est pas le travailleur, c'est les travailleurs, c'est l'humanité. C'est toujours très abstrait, parce que c'est une idéologie. Mais c'est deux contraires. C'est intéressant, du reste, à ce point de vue-là. Et Nietzsche voudrait, comme Marx, fonder une éthique des travailleurs, une éthique du surhomme. C'est pas l'éthique de l'homme, c'est l'éthique à partir de la créativité. Par la créativité, l'homme atteint quelque chose de nouveau, et à partir de là, on aura l'éthique du surhomme. Alors, l'éthique devient quelque chose de second, en dépendance de ce qu'il y a de premier, voyez. C'est toute la différence entre l'éthique philosophique, qui part d'une expérience immédiate, qui me fait découvrir l'homme, l'amour d'amitié. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, la bioéthique. La bioéthique, c'est à partir du bio que l'éthique apparaît. Et donc il faut la connaissance biologique de l'homme et à partir de là élaborer une éthique. Alors ça ne se dit pas comme ça, mais en réalité c'est comme ça. C'est ce que disait Monod. L'éthique, la morale, se modifie en fonction des découvertes biologiques. Alors, la bioéthique ne dit pas ça. La bioéthique voudrait faire une synthèse des deux, une éthique philosophique et puis une éthique nouvelle à partir des découvertes scientifiques. Elle voudrait faire les deux. Elle ne peut pas. Il faut nécessairement découvrir l'homme tel qu'il est dans toutes ses dimensions et non pas selon la connaissance biologique, qui est abstraite. Pouvez-vous rappeler comment la philosophie philosophie de l'homme, alors que de fait, l'histoire de la pensée philosophique que montrent les premiers philosophes, oui, que nous manifestent les premiers, notamment les physiciens et les présocratiques, la philosophie présocratique, ont porté leur attention d'abord sur des considérations d'ordre cosmologique, c'est très vrai. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas, puisque vous êtes en philosophie grecque, il y a tout de suite les deux, présocratiques et les pythagoriciens. Au fond, la philosophie oscille tout le temps, entre l'être et l'amour. Tout le temps, toute la philosophie oscille entre le point de vue de l'être et le point de vue du bien. Bien l'amour et la connaissance. C'est difficile d'aimer l'être. Faut le connaître. Ce que j'aime, c'est le bien. La personne, c'est mon bien. Et bien, la philosophie oscille tout le temps entre les deux. Je ne réduis pas le bien à l'être, et je ne réduis pas l'être au bien. C'est ça la difficulté. Je ne peux pas arriver à une unité absolue. Dieu seul est saint. Le philosophe sait qu'il n'est pas simple. Il y a en vous l'âme et le corps. Alors, le corps est du côté de l'être, ou est-ce qu'il est du côté du bien? Et l'âme est-elle du côté du bien, ou est-elle du côté du corps? Ah, c'est une autre distinction. Alors, je ne sais pas comment je vais la mettre. Il vaut mieux mettre âme et corps. Et qu'est-ce qu'il y a? Un être. Unité substantielle dans l'ordre de l'être. Vous n'avez pas deux êtres. Tâtez le pouls. Métaphysique. Parce qu'il y a un pouls métaphysique. Et il n'y a pas deux êtres en vous. Il y a un être. Je suis. Je suis. Je suis dans mon âme et dans mon corps. Mais il y a une dualité aussi. Et l'être et le bien, il y a l'unité dans l'exister. Dans l'être en acte. Mais dès que j'analyse l'être et le bien, l'exister, je l'atteins de deux manières différentes. Alors, comprenons bien. L'histoire de la philosophie, c'est pas la philosophie. Je ne fais pas une philosophie historique. Je me sers de ce qui a été dit pour philosopher. Les présocratiques, l'histoire des présocratiques, du moins, quand j'étudie les présocratiques, c'est pour m'aider à voir comment les philosophes ont pensé. Mais ce n'est pas la philosophie. Parce que je n'ai pas pensé comme les philosophes, comme les présocratiques. Millet. C'est impressionnant, Millet. Il ne reste rien. Il ne reste plus rien. Quelques petits fragments. Si je devais faire la philosophie de Millet, ça irait pas très loin. Vous savez. Au commencement. Qu'est-ce qu'il y a au commencement? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est l'infini? Est-ce que c'est l'air? Voilà ce qu'ils disent. C'est très beau, c'est magnifique. Les premiers balbutiements. La philosophie qui commence à dire « Ah, ah, ah » comme le prophète. Trois points. Et puis les présocratique et pythagoricien sont les deux sources, l'être et le bien. Et vous trouverez tout le temps ces deux sources, l'être et le bien. Constamment, constamment. Et en vous, vous avez toujours les deux. Donc, très bien cette remarque, il faut être intéressé à l'histoire de la philosophie. Pose des questions. Alors là, oui. Et ça pose tout de suite cette question. Ah oui, mais attention, il y a Millet et les pythagoriciens. Et l'unité se fera à Athènes. C'est ça qui est très joli. Hein. Les pythagoriciens, si, là, c'est pas Athènes. Et puis, Millet, et puis l'unité à Athènes. Mais l'unité qui impliquera la diversité. Unité analogique dans la diversité. D'autre part, l'entrée en philosophie dépend-elle plus immédiatement de la forme d'intelligence que de l'ordre interne de la philosophie? Puis-je entrer en philosophie sans pour autant distinguer de prime abord sa structure organique? Mais c'est évident, parce que la structure organique de la philosophie, quand j'entends philosophie, elle n'existe pas. Quelle est la structure de votre intelligence quand vous n'avez pas encore pensé? Tabula rasa. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez critiquer qu'en ayant que la connaissance. Critiquer la philosophie par l'histoire de la philosophie, vous ne pouvez pas. Il faut avoir fait de la philosophie pour critiquer l'histoire de la philosophie. Toujours. Mais l'histoire est une manière d'entrer dans la philosophie. Donc, je ne peux pas entrer en philosophie par l'ordre philosophique, puisque je ne l'ai pas. Est-ce que je regarde qu'est-ce que j'ai au point de départ de l'expérience? C'est évident. Sans être philosophe, j'ai des expériences quand même. Hein. Heureusement. Et la philosophie me permettra d'être plus attentif à mes expériences. C'est pour ça que la science infuse dans le Christ lui permettait d'avoir des expériences bien plus lucides que nous. Voyez, c'est très curieux ça. Plus ma connaissance est éveillée, plus l'expérience prend de l'importance pour moi. C'est tout le temps comme ça. C'est pour ça que la philosophie me permet d'être très attentif à mes expériences, très attentif à mon travail. Si je suis vraiment philosophe, je suis très attentif à mon travail. Et ça, c'est le signe d'une philosophie réaliste et bonne. Si en philosophant, vous n'êtes plus attentif au travail, ça prouve que votre philosophie est complètement à côté. L'amour que vous avez pour quelqu'un vous rend plus attentif à cette personne, l'expérience, et à sa capacité de travailler, et à votre propre capacité de travailler. Donc, voyez, puis-je entrer en philosophie sans pour autant distinguer de prime abord sa structure organique? Je comprends. Nous devons tous découvrir la philosophie pour nous, dans une recherche de la vérité. Mais ma philosophie n'est pas la vôtre. Et si vous répétez ce que je dis, c'est pas votre philosophie. C'est l'opinion que vous avez de celui qui vous enseigne la philosophie. Et c'est pas la philosophie. Ce que je vous enseigne doit vous aider à découvrir la vérité. Oui. Le professeur est le sycomore, hein, pour mieux comprendre la vérité. On monte dessus. Pour mieux comprendre la vérité. Mais c'est la réalité.
Vous êtes très obscur à vous-même. Ouh là 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 là. Il y a du marécage. Et comme on n'a pas fait la... Quand vous avez un étang artificiel qu'on n'a pas nettoyé depuis 15 ans, 20 ans, hein, il y a de la vase. Il y a des grenouilles.
Sens infini.
philosophe n'est jamais au chômage. Jamais. Il porte son laboratoire avec lui. Il n'a pas besoin d'instruments très compliqués. Il n'investit pas grand-chose. Bon. Microscope électronique, des choses extraordinaires, invraisemblables. L'ordinateur, très compliqué. Très... Mais non, il n'a rien de tout ça. Rien de tout ça. Des armes légères. Les armes légères sont touchées. Sa vision. Et même si sa vue baisse, ça n'a pas d'importance. L'intelligence pénètre plus avant. Je m'arrête pas à ce que je vois. Je m'arrête pas à ce que je goûte. Je m'arrête pas à ce que je touche. Je dépasse. Parce que la réalité est plus que tout ça. Et c'est cette réalité que je cherche. Vous voyez ? Donc, vous voyez comment dire la philosophie de l'homme, n'est-ce pas une affirmation ultime et elle-même proprement philosophique ? Non. Parce que parmi toutes les réalités que j'expérimente, l'homme m'apparaît comme la plus complexe, la plus intelligente, celle que je peux aimer. Vous ne pouvez pas faire la philosophie du crapaud. Parce que vous ne pouvez pas l'aimer quand même, quoi. D'un amour d'amitié, j'ai mon petit crapaud derrière moi. Il me suit tout le temps, ce petit crapaud. Je l'aime, il est une fidélité extraordinaire. Alors je vais faire la philosophie du crapaud. Alors là, je dirais c'est a priori. Ou la philosophie de l'araignée. Parce que je crois que l'araignée, c'est l'animal le plus irascible qui soit. Alors, si vous voulez connaître l'irascible, regardez l'amitié. Regardez l'araignée. L'araignée est extraordinaire, l'araignée. Vous ne pouvez pas. Tandis que l'homme, ce n'est pas un a priori. C'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est pas philosophique, c'est pas une conclusion philosophique, c'est l'expérience. Toutes les réalités que vous expérimentez, la plus parfaite, c'est l'homme. Alors, c'est évidemment pour vous tel homme que vous avez vu, que vous avez rencontré, qui était particulièrement intelligent. Vous n'avez jamais rencontré de plus intelligent. Vous pouvez dire ça. Ça, c'est vrai. Il y a du plus et du moins. Mais en même temps, c'est toujours l'intelligence humaine. Mais vous aimez tel matheux. Vous aimez tel physicien, tel astronome. Au-delà de tout ça, c'est l'homme. Oui, donc, c'est pas du tout une conclusion. C'est pas du tout quelque chose d'ultime. C'est quelque chose de premier. Je pars de l'expérience de l'homme. Mon expérience humaine. Et je pars de l'homme. Et je vois que j'ai raison. Je ne peux faire la philosophie que de l'homme. Je ne peux pas faire la philosophie en premier lieu de Dieu. Mais faisant la philosophie de l'homme, j'aboutis à Dieu. Ce qui vient confirmer que la philosophie de l'homme est bien la philosophie, l'ami de la sagesse. En rencontrant Dieu, je rencontre la sagesse. Mais je ne peux pas faire tout de suite la philosophie de Dieu, parce que je n'ai pas l'expérience de Dieu, au plan philosophique. Je n'ai pas directement l'expérience de Dieu. J'ai l'expérience de l'homme religieux, pas de Dieu. Donc, je ne peux pas faire l'expérience. Je ne peux pas avoir une philosophie qui soit une philosophie de Dieu. Le croyant, lui, adhère tout de suite à Dieu. Et c'est pour ça que c'est la théologie. Le croyant, lui, regarde Dieu et fait une théologie. Le philosophe regarde l'homme. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Mais il y a un ordre. Et il faut bien saisir ça, parce que autrement, on ne voit plus que, de fait, la réalité que vous expérimentez la plus parfaite, c'est l'homme. Je crois que tout le monde peut être d'accord avec ça. Alors vous pouvez être déçu de l'homme. Tout homme est menteur, oui. Omnis homo mendax. C'est dit dans l'écriture, donc c'est vrai. Tout homme est menteur. Sous un certain aspect, tout homme est menteur. Mais en même temps, l'homme est l'image de Dieu. Il y a les deux affirmations. Mettez les deux en extrême. Alors, continuons. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Même si ça fait revenir c'est étudier l'homme en tant qu'il est capable de poser des actes dont il est responsable. Parce que si vous posez des actes dont vous n'êtes pas responsable, ben, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas l'éthique de l'araignée. Non. L'araignée agit selon son instinct. Et son instinct est fait pour tuer les mouches. Et de temps en temps, elle se trompe et elle va sur l'homme. Elle se trompe en faisant ça. Bien évident. Son instinct cherche le sang d'un animal. Vous voyez, l'irascible cherche le sang. C'est très cru. Pomper le sang de la mouche. Il n'y a pas beaucoup, mais ça ne fait rien. Quand elle est sur l'homme, ah, ça lui va mieux. Elle pompe davantage. C'est pour ça que son irascible est particulièrement éveillé à ce moment-là. Ce dont on est responsable, l'acte volontaire, c'est ça l'éthique, l'étude de l'acte volontaire de l'homme. On distingue tout de suite en nous, en chacun d'entre nous, il y a des actes qui ne sont pas volontaires, instinctifs. Ce que, au Moyen-Âge, ce que saint Thomas aimait de répéter tout le temps, le fricare barbam. Il y a des gestes instinctifs. Chacun d'entre nous avons des gestes instinctifs dont on ne tient pas compte, sans aucune espèce d'importance. Le voisin, ça peut l'agacer. Hein. Ça peut l'agacer. Alors, ça fait partie des proclamations du chapitre. C'est les actes qui ne sont pas volontaires. Pourquoi celui-là, il a toujours les yeux levés au ciel? Ah, mais oui. Pourquoi celui-là, il regarde toujours la terre? Je ne sais pas très bien pourquoi. L'acte volontaire. Eh bien, parmi les actes volontaires, quel est celui qui va servir de fondement? C'est-à-dire, quel est celui qui est premier, le plus radical, dont j'ai parfaitement conscience? Parce que je ne peux philosophiquement fonder ma philosophie comme point de départ que sur l'expérience. Et l'expérience réclame la conscience. Je ne vais pas fonder ma philosophie sur les rêves. Les rêves font partie de ma philosophie. Philosophie du vivant. Parce que c'est le vivant qui rêve. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas mettre mes rêves en éthique. Non. Puisque c'est en dehors. En philosophie du vivant, il y a une partie de la philosophie du vivant. Les rêves. Pas laisser les rêves uniquement aux psychanalystes. Il faut l'étudier en philosophie. Je ne peux pas baser ma philosophie sur les rêves. Pourquoi? Surtout mon éthique sur les rêves. Parce que les rêves, c'est pas volontaire. C'est sûr. C'est en dehors du volontaire. Et j'en ai l'expérience constamment quand je me réveille. Je passe du rêve. Ce dont j'ai conscience, parmi mes expériences volontaires, dont j'ai parfaitement conscience, je dis, c'est l'amour d'amitié. Quelle expérience type? On avait soulevé, pourquoi pas le bonheur? Mais le bonheur, qu'est-ce que c'est? Je rêve au bonheur. Est-ce que vous avez l'expérience immédiate du bonheur? Vous avez l'expérience d'une joie, oui, d'ordre végétatif, passionnel. J'aime le chocolat, c'est mon bonheur. Est-ce que c'est pas l'amour d'amitié qui est source du plus grand bonheur immédiat? Il y aura peut-être un autre bonheur plus important, mais je ne le découvre pas immédiatement. Alors vous allez me dire, l'amitié, vous ne la découvrez pas immédiatement. C'est vrai. Mais je prends les expériences actuelles. Je fais la philosophie de mes expériences actuelles. Alors, si je suis un contemplatif, je dirais, pour moi, c'est la contemplation. C'est très vrai. Mais vous serez bien obligé de reconnaître que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a peu de contemplatifs. Vous allez me dire, mais l'amour d'amitié non plus, c'est pas pour tout le monde. C'est vrai, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est quand même beaucoup plus proche de ce que représentent les hommes. La coopération, une amitié, une entraide, la rencontre de l'autre profondément, c'est quand même l'amour d'amitié. Et c'est l'amour d'amitié qui représente une perfection de l'homme dans ses activités volontaires. C'est l'amitié qui représente le point de départ d'une vraie responsabilité. Je respecte l'autre et je suis responsable de lui. Et je le respecte dans sa propre finalité, dans ce qu'il est. Et je le respecte pleinement dans ce qu'il est, tel qu'il est. Je ne projette pas ma responsabilité sur lui. Je découvre ce qu'il est, lui-même, dans son devenir. Donc, c'est vraiment dans l'amour d'amitié que je rencontre toutes les expériences types de l'homme. C'est pour ça que je peux dire que le fondement, en réalité, ce fondement, c'est ma finalité. C'est ça qui est très beau. Le point de départ de l'éthique, c'est là où fondement et finalité se rejoignent. C'est mon petit alpha omega.
Est-ce que l'expérience immédiate du désir d'être heureux n'est pas suffisante pour avoir une expérience de la finalité, mais intentionnellement,
et de là, oui, si vous voulez, mais c'est beaucoup moins réaliste. Ce que j'aime dans l'amour d'amitié, c'est qu'il y a le réalisme de l'autre. Le jugement d'existence est présent. Tandis que dans votre nostalgie du bonheur, le jugement d'existence est suspendu. Je désire le bonheur, mais où est-il ce bonheur?
Le fait de rechercher, justement.
Ah, mais alors c'est la recherche, c'est l'intentionnalité. C'est pas le jugement d'existence. Je crois qu'en philosophie, l'expérience implique toujours un jugement d'existence en acte. Autrement, je risque de faire une philosophie idéaliste. C'est ce qu'on a reproché quand on dit le bonheur. Mais c'est trop idéaliste. Vous voyez? Parce que vous êtes dans l'intentionnalité. Et votre jugement d'existence n'est pas suffisant. Tandis que dans l'amour d'amitié, le jugement d'existence est présent. C'est l'ami. Et l'ami existe. Vous voyez? Mais c'est bien de soulever ça, parce que intentionnellement, c'est très vrai. Le désir du bonheur, c'est ça qui me porte à l'amitié. S'il n'y avait pas un désir de bonheur, le désir du bonheur repose sur l'amour. Et je découvre l'ami. Je dis, tiens, là, mon amour prend quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et c'est pour ça que l'amour d'amitié est une exigence de réalisme. De respecter l'autre tel qu'il est. Dans toutes ses dimensions. Si je projette sur l'autre mon propre désir de bonheur, je risque, voyez, de l'entraîner là où il ne doit pas aller. Parce que son désir de bonheur n'est pas exactement mon même désir de bonheur. Tandis que tel qu'il est, il est mon bien, que je respecte. Il y a une dimension de respect que je crois très important dans l'éthique, voyez. Je me souviens dans le dialogue avec Et là, je le retrouve dans l'amour d'amitié. Tandis que je ne l'ai pas dans le désir du bonheur. Vous voyez ? Et ça, c'est jugement d'existence. Mais c'est bien, il faut réfléchir à ça, parce que il faut que pour chacun d'entre vous, l'expérience de l'amour d'amitié, même si c'est simplement le point de vue, pour nous c'est facile. Parce que nous avons une expérience d'amitié radicale en tant que chrétien. Alors je ne dis pas que c'est la charité chrétienne, mais la charité chrétienne implique l'amour d'amitié. Plus ou moins explicité, implique l'amour d'amitié. Donc nous l'avons tous, c'est ça l'avantage du chrétien. Mais je ne dis pas que c'est une éthique chrétienne. Je dis que l'amour d'amitié peut exister en dehors de la charité. Et c'est ça que je prends comme fondement, comme point de départ de mon éthique. Et je crois que c'est cela seul, aujourd'hui, qui résiste à toutes les attaques qu'on a faites sur l'éthique. Vous voyez, les attaques sur l'éthique sont fortes avec Freud, vous savez. Freud détruit l'éthique. Ça ne faut pas bien voir profondément. C'est une destruction de l'éthique, Freud. Si on va jusqu'au bout, c'est la destruction d'éthique. Et c'est du reste ce qui impressionne les Freudiens. C'est ce qui impressionne les Freudiens. Parce qu'ils détruisent l'autorité paternelle. Et en détruisant l'autorité paternelle, ils détruisent l'obéissance. Et en détruisant l'obéissance, ils détruisent l'éducation. Et en détruisant l'éducation, ils détruisent la possibilité d'une amitié. Alors, pas, c'est pas direct, mais c'est impliqué progressivement. Vous voyez ? Alors il y aurait un argument, justement, a contrario, c'est par Freud. Qu'est-ce qui détruit le plus l'éthique ? Ça serait intéressant comme question. C'est négatif, mais c'est très intéressant. Pour nous, c'est important, parce qu'on est très sensibilisés à la négation. Notre monde d'aujourd'hui, si ce qui caractérise la modernité, c'est le primat de la négation, nous devons toujours être très attentifs à ça. Qu'est-ce qui détruit le plus l'éthique ? Qu'est-ce qui fait que l'éthique devient impossible ? Si vous niez l'amour, il n'y a plus d'éthique. Or, l'amour, vous n'avez l'expérience parfaite de l'amour que dans l'amour d'amitié. C'est là où vous avez l'expérience type de ce que c'est que l'amour spirituel. Et c'est pour ça que la négation de l'amour supprime l'éthique. Il n'y a plus d'éthique possible. Vous vous direz, ah, il y a encore l'éthique du devoir. Kant. Même si on n'aime pas. Mais attention. Quel est le fondement du devoir ? C'est votre désir du bonheur. Et votre désir du bonheur repose sur un amour.